La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette midinale du 31 janvier 2022. Vous êtes bien sur Radio Piquesse et on commence tout de suite par la revue de presse. Et je vais donner la parole à mes acolytes du jour, c'est-à-dire Seb. Salut Seb.
Salut Nico.
Salut Pedro.
Salut Nico.
Salut Steph.
Salut.
Salut Asgard, la technique.
Salut.
Salut moi-même. Et du coup, Seb, tu commences par des infos sur Nantes révoltée.
Oui, des infos importantes. Donc, peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou pas. Et donc, c'est le moment. Et écoutez bien et faites tourner l'info. Ce 25 janvier 2022, Gérald Darmanin, qui est un fan des dissolutions, voudrait engager la dissolution de Nantes révoltée. Donc moi j'ai appris ça par le site de Nantes Révoltée, hein. Je pourrais vous lire ce qu'ils en disent d'ailleurs de cette attaque. Et derrière, depuis, donc là ça fait une semaine, quoi, il y a eu de nombreuses réactions, hein, que ce soit par le réseau MeToo, que ce soit sur le site de la CRIMED, et aussi par le fait que Nantes Révoltée a lancé une pétition que vous pourrez retrouver sur change.org en tapant Nantes Révoltée, vous tombez direct dessus. Bon, on reparlera de la pétition à la fin. Alors pourquoi Gérald Darmanin a voulu engager la dissolution de Nantes Révoltée. Je vais vous lire l'article de Nantes, la première réaction de ce média de Nantes. Le régime politique semble avoir atteint un niveau d'illégitimité, de faiblesse si élevé qu'il se sent menacé par un petit média indépendant et local, le nôtre, Nantes Révoltée donc. En 24 heures, une poignée d'élus de droite et d'extrême droite ont réclamé la dissolution de Nantes Révoltée, demande immédiatement exaucée ce mardi 25 janvier. Darmanin en personne à l'Assemblée nationale annonçait la procédure de dissolution. En gros, il a dit surtout qu'une fois que les choses seront inattaquables, puisque toute dissolution proposée à Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président doivent être validées par le Conseil d'État. Donc en gros, il faut d'abord que Darmanin il veut bien y aller, mais il veut être sûr que les choses seront inattaquables. Alors bien sûr, dans un contexte où Nantes Révoltée est un média, il va falloir qu'il s'attaque à la liberté d'expression. Là, c'est peut-être pas gagné, quoi. En même temps, ça fait des années que le pouvoir cherche à détruire Nantes Révoltée, à détruire l'esprit de révolte qui anime Nantes. Pour Darmanin, Nantes Révoltée lance, depuis la loi El Khomri, des appels à la violence et tient contre l'État et les policiers des propos inacceptables. Si relayer des appels à manifester est un motif de dissolution, il va falloir s'attaquer à plusieurs dizaines d'organisations, je pense, hein, syndicales, pages Facebook, etc., dans le pays quand même. Si s'opposer aux violences d'État, comme Nantes Révoltée le fait, c'est un motif de dissolution, il va falloir dissoudre des centaines de journalistes, de pages Facebook et de médias également. La vérité du moment, c'est un ministre de l'Intérieur accusé de viol à la tête d'une police sanguinaire, dans le gouvernement d'un banquier élu grâce au chantage électoral. La vérité, c'est une crise politique, sanitaire, économique et écologique totale. La vérité, c'est que plus personne dans ce pays ne croit en un seul mot, ni du gouvernement, ni des médias dominants. Donc pour cacher ces vérités, il faut réprimer, censurer, mettre en scène la destruction d'un média indépendant animé par quelques bénévoles. La vérité, c'est qu'à l'heure où des milliardaires d'extrême droite monopolisent les médias, le moindre contre-pouvoir, la moindre parole divergente doit être écrasée à tout prix. Voilà. Donc Nantes Révoltée, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un média et pas un groupuscule d'extrême gauche comme Le Monde l'avait titré dans son article le 25 janvier, qui a été corrigé derrière. Ça m'a fait marrer parce qu'en cherchant l'article, j'ai dit bon, c'est pas un groupuscule et j'ai pas eu le temps d'aller leur mettre une petite remarque qu'ils avaient transformé le mot groupuscule en média.
C'est le gouvernement qui a un groupuscule.
Donc Nantes Révoltée est bien un média, lu par plusieurs millions de personnes chaque mois et comptant plus de 250 000 abonnés sur différentes plateformes. Nantes Révoltée a documenté par exemple la charge qui a tué Steve, les mobilisations des Gilets jaunes, la lutte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les occupations pour les sans-abri. Depuis 10 ans, ils ont donné de la force et du soutien à celles et ceux qu'on n'entend pas. Ils ont animé la vie sociale, politique et artistique à Nantes et bien au-delà. Voilà, donc maintenant, Nantes Révoltée a besoin de notre soutien, de votre soutien. Ils sont en contact avec des avocats, une bonne armada, apparemment ils se protègent bien. Ils ont donc lancé une pétition dans la soirée du 25 janvier. Donc pétition que on retrouve, comme je le disais en début, sur change.org en tapant Nantes Révoltée. Pétition qui a dépassé cette nuit déjà les 35 000 ouais. signatures, mais ce qui serait bien, c'est que ça monte à 50 000, 100 000, et quand on sait qu'il y a 250 000 abonnés sur les différentes plateformes aux médias, il va falloir continuer à faire tourner, quoi. Alors, ça, c'était la première réaction de Nantes Révoltée. Hein. Depuis, on en trouve une. Alors, la première que j'ai retrouvée, c'était sur le réseau Mewtwo, qui a fait une réaction hein, au nom du tout le réseau Mewtwo. Le réseau Mewtwo, c'est quoi? C'est tout un regroupement de médias libres, indépendants, qu'on peut retrouver un peu partout en France, hein, dont Nantes Révoltée fait partie, dont à Brest, c'est Bourrasque.
Yata à Toulouse.
Yata à Toulouse, bon, il y en a toute une palompée. Et il y a aussi, donc il y a déjà, vous pourrez retrouver un article, donc il est celui-là, c'est sur Paris Lutte Info, qui fait aussi partie du réseau Mewtwo, il me semble. Mm-hmm. Oui, donc il y a une première réaction du réseau face à cette menace de dissolution de Nantes Révoltée. Et il y a aussi Lacrimed qui monte au créneau, hein, Lacrimed, l'Observatoire des médias, Action Critique Média. Et qu'ont lancé un texte co-signé par de nombreux médias indépendants et autres, il y a plusieurs types de signataires, et qui est titré « Nantes révoltée et nous avec elle ». Voilà, donc c'est un très bel article, c'est peut-être pas la peine que j'en dise plus sur cette affaire. En tout cas, nous, on se sent aussi très concernés hein, chez Radio Piquet. Pourquoi? Bah, parce qu'on est aussi un média libre et indépendant, que je pense qu'on a des idées politiques proches du réseau Mewtwo, de Nantes Révoltée et tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, si Nantes Révoltée tombe, c'est qui les prochains, quoi? Alors, nous, c'est sûr, on est moins en avant. Donc, pour l'instant, à Piquet, on n'est pas encore 200 000, on n'a pas 200 000 auditeurs et auditrices, mais ça va venir.
Bien.
Donc potentiellement, faut qu'on fasse attention aussi, et donc ça va commencer par soutenir Nantes Révoltée.
Pour ajouter à la liste des prises de position publiques, il y a un podcast où ils se sont exprimés, donc Nantes Révoltée avec Cerveau non disponible, qui a été fait par le média, et où ils expliquent en gros ce qui se passe pour eux et ce qu'ils comptent faire. Mmh. Et l'interview est assez intéressante parce qu'ils se mettent tous les... Enfin, il y a deux personnes qui interviennent qui expliquent justement la manière dont des médias qui ont une ligne politique qui convient pas sont attaqués conjointement et par le gouvernement et aussi par d'autres formes d'attaques qui sont celles des réseaux sociaux,
sur
Facebook,
les GAFAM.
Sur les GAFAM, etc. Bah, et la complémentarité de l'interview est intéressante pour ceux que ça pourra intéresser.
D'autant plus s'ils ont fait ça avec Cerveau non disponible, c'est peut-être aussi parce que Cerveau non disponible s'est fait attaquer sa page Instagram, ça s'est fait couper sa page Instagram quasiment dans la foulée là, de la demande de dissolution de Nantes Révoltée. Il y a déjà eu hein, des attaques sur plusieurs médias de ce type. Il y a eu, il y a quelques mois, c'était la BOG, média d'info dans le Limousin, qui était pris pour cible. En autre exemple, il y avait eu quoi? Le festival Lyon Antifa Feist, qui avait été attaqué. Enfin, on voit bien qu'il y a une volonté de l'État d'attaquer tout ce qui vient des idées de gauche. Voilà, mais pendant ce temps-là, eux, ils essayent de dissoudre des groupuscules d'extrême droite, mais par contre, ils les ont laissés marcher en toute connaissance de cause, il y a 2 semaines, dans les rues de Paris.
C'était un clapping.
Ouais, c'était un clapping. Non, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la manifestation du soir à 18h, hein, organisée par la marche pour la fierté parisienne. Et on a retrouvé dedans des membres des deux groupuscules qui venaient soi-disant d'être dissous. Donc voilà. Bon, bref. Et y avait aussi déjà eu, ça c'était quand alors, c'est un article qui date du 29 janvier, donc qui est récent, qu'on retrouve aussi sur Paris Lutte Info, qui remontait une tentative déjà de censure de la part du ministère pour un autre sujet. Donc ça, c'est un cadeau qui les attendait à la mi-décembre. Ils ont reçu une lettre de mise en demeure de la part du ministère de la Transition écologique, leur ordonnant de dépublier des listes de logements vides des bailleurs sociaux en France. Des listes qui s'empressent de relayer sur leur site, et ils expliquent pourquoi. Donc ils avaient trouvé... alors ils sont quand même là, eux, on les menace de poursuites avec des amendes allant jusqu'à 20 millions d'euros et des peines pouvant atteindre 5 ans de prison. Pour quel motif? Qu'ils se soient procurés des listes de logements vides appartenant à des bailleurs sociaux et qu'ils les aient publiées. Ce serait, selon leur courrier, illégal, car il s'agirait de documents confidentiels et qu'il y aurait des données à caractère personnel dans les listes. Et par conséquent, ils sont accusés d'enfreindre la RGPD. Et Paris Lutte Info, là-dessus, se défendent complètement. Ils expliquent en quoi ils ne sont en aucun cas coupables d'enfreindre la RGPD. Puisque justement, quand il parle la RGPD, elle, il y a donc c'est pour défendre le fait qu'on se servirait de données à caractère personnel. Mais ils excluent dans la RGPD certains types, voilà, de ce qu'on appelle le caractère personnel. Par exemple, la RGPD stipule le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales. Et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale. Or, les bailleurs sociaux sont bien des personnes morales, donc ils ne sont pas concernés par la RGPD. Donc Paris Lutte Info n'est pas hors la loi. Et j'adore comment ils finissent. Bref, si le but était de nous intimider, c'est râpé, va falloir revoir la copie. Et derrière, bim, ils remettent la liste des adresses des logements sociaux vides, que vous pouvez consulter donc par cet article et vous rendre compte un petit peu du problème des logements en France, et ça questionne sur le nombre de personnes qui vivent dans la rue. Voilà. Donc soutien à Nantes Révolté, on va signer la pétition. Soutien des autres médias qui sont attaqués, hein, restez à l'écoute, continuez à vous informer par ces médias qui sont libres, indépendants.
Qui font les vraies enquêtes, en fait, hein, parce que si c'est pas Pascal Pro et Nicolas Demeurant qui va faire des enquêtes, eux, c'est des chiens et des chiennes de garde. Alors, bah, on enchaîne directement sur la question des médias encore.
Ouais, c'est juste. Moi, je voulais parler d'une initiative d'Acrimed, dont Seb parlait, donc Acrimed Action Critique Média. En fait, c'est une demi-journée qui aura lieu le 12 février à Paris, dans le 11e, salle Olympe de Gouges, donc de 13h à 19h le 12 février. C'est Acrimed et Visa qui organisent un colloque autour de les médias et l'extrême droite.
C'est où ?
C'est à Paris.
C'est à Paris.
Dans le 11e arrondissement. Et on peut trouver tout ça sur le site d'Acrimed. Dedans, sont invités plusieurs personnes qui s'expriment notamment sur les médias. Donc, il y aura le Syndicat national du journalisme CGT avec un plateau avec Acrimed sur comment ça réagit dans les rédactions face à l'extrême droite, mais aussi une cartographie de la fachosphère dans les médias, ça c'est la horde qui s'y colle, et puis une intervention sur 30 ans de banalisation médiatique de l'extrême droite, notamment avec un auteur qui s'appelle Hugo Paglietta, qui est invité. Hugo Paglietta, il a sorti l'année dernière un livre avec Ludivine Bantini, et là je fais un tout petit moment de silence parce que c'est l'extraordinaire Ludivine Bantini, qui s'appelle Face à la menace fasciste. Et là, donc, il interviendra sur cette question-là, plus précisément dans les médias. Voilà, donc c'est le 12 février. Et c'est gratuit, évidemment. C'est à Paris. En sachant que Acrimed, c'est un site internet, enfin, c'est un site internet avec plein de contributeurs, que l'ensemble de leurs contributions, elles sont libres et gratuites, et que depuis quelques mois maintenant, une fois par mois, ils réalisent un podcast qui est diffusé sur Fréquence Paris Pluriel, sur cette question-là, en fait, sur l'indépendance des médias, sur qu'est-ce que c'est que les grands médias en France aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était juste ça. Et du coup, je te redonne la parole, Pedro, parce que ça a failli être à toi.
Non, mais il n'y a aucun souci.
De toute façon, ça rebondit bien sur le thème que je voulais aborder aussi. Donc, pareil, moi, c'était un article sur lequel je suis tombé, donc sur Nantes Révoltée. Merci à eux et merci au combat qu'ils mènent. Donc, ils ont sorti le 17 janvier, là, et dont le titre de l'article, c'est « Conditionnement mental, les médias complices du fascisme ». Donc, ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit là, il n'y a pas longtemps, hein, en fait. Il y a donc une personne qui s'appelle... il est chercheur en informatique et analyste des médias. Il s'appelle Nicolas Hervé, qui a sorti une étude. Donc, sur le... je ne vais pas vous lire tout l'article, parce que c'est très détaillé. Je vous encourage à aller le lire. En fait, et en plus, il pointe vers l'enquête complète que cette personne a fait, qui est en PDF, qui est très bien détaillée, qui fait déjà 10 pages. Et donc, en gros, ça explique actuellement dans le climat présidentiel qu'on connaît, là, qui est vraiment pas terrible, la façon dont les médias traitent les différentes personnes, en fait, suivant leur appartenance soi-disant politique, donc entre l'extrême droite, la droite, le centre, le gauche, écolo et extrême gauche. C'est marrant parce qu'ils ont mis écolo, que je trouve un peu péjoratif comme terme, mais bon, bref, c'est pas moi qui fais l'étude. Et donc, je vous encourage vraiment à lire ça, parce que ça fait le lien par rapport à ce que disait tout à l'heure Seb sur la fête, donc par exemple, d'où le Monde titre un article en disant que Nantes Révoltée est un groupuscule d'extrême gauche. Bah, à force de donner de la liberté aux gens d'extrême droite, à libéraliser cette parole d'extrême droite, à en arriver à des discours et du vocabulaire en fait d'extrême droite, hein, dont on va utiliser en ce moment, je pense que le mot qui doit ressortir le plus sur BFM et CNews, ça doit être le wokisme, les islamo-gauchistes et autres conneries du genre, sachant qu'eux-mêmes ne savent même pas ce que ça veut dire. Pascal Praud étant un chroniqueur sportif à la base, hein, il aurait dû rester faire du foot. Mais donc là, ce qui est intéressant dans cette étude, faut vraiment que vous alliez lire la page 5, c'est très bien détaillé, ça vous donnera un graphique clairement, en fait, de ce qui se passe dans les médias dominants. Et on se rend compte quand même que, en gros, je reprends le graphique comme ça, il y a 20% du temps de parole qui est donné aux gens de gauche et affiliés de gauche, donc écologistes gauche et extrême gauche, et 80% du temps de parole, c'est de la droite, extrême droite, donc avec une domination de l'extrême droite, et un petit peu de centre sur certains médias plus dominants, en fait, qui sont plus affiliés, on va dire, présidentiels, puisque notre président est affilié aux médias de centre. Donc voilà. Et donc on voit qu'en ce moment, on a bien le schéma que Macron veut, hein. De toute façon, c'est faire monter le populisme et l'extrême droite, tout en lui, en se mettant en barrage, finalement, de Marine Le Pen ou Zemmour. Bon, Zemmour, il a toujours pas ses 500 signatures, donc pour l'instant, on sait pas trop s'il sera candidat ou pas. Mais on voit déjà que les médias, en gros, ils nous préparent psychologiquement et mentalement à ce combat, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de défendre tous ces médias qui sont Nantes Révoltée. Alors moi, il y a un autre média qu'on parle pas trop, là, que j'ai découvert sur YouTube, c'est Blast, qui est pas mal aussi. Ah, oui. Il y a Basta, là, que tu m'as fait découvrir, Seb, qui est parfait aussi. Enfin bon, bref, lisez tous ces médias. Essayez de vous interroger différemment sur ce que veulent vraiment vous montrer les médias. Bon, le problème, c'est que les gens qui vont sur les médias alternatifs sont déjà en général éclairés de la situation et que c'est plutôt le reste de la population un peu abreuvée à tous ces médias dominants qui, eux, vont peut-être pas assez loin dans le... Donc, si jamais vous connaissez des gens qui ne vont que sur les médias mainstream, encouragez-les à aller voir de l'alternatif.
Et il y a une façon très simple, si vous êtes sur les réseaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les Twitter, les Facebook, enfin ceux des GAFAM, ou je vous invite aussi à rejoindre le réseau Mastodon qui cherche à sortir de tout ça, qui commence à grossir. Mais il y a une chose très simple pour faire découvrir les médias. Au lieu de relayer, quand vous tombez sur un sujet, au lieu de relayer l'article venant de CNews ou de 20 minutes ou des médias mainstream, relayez tout simplement l'article qui vient de ce genre de médias et les gens cliqueront et les gens les découvriront petit à petit. Ça marche comme ça aussi.
C'est un travail individuel de chacun, on va dire.
Mais oui, on a tous notre part.
Nous enchaînons par l'affaire des inculpés du 8 décembre, ouais. Qui revient dans l'actualité.
Ouais, c'est ça. Donc, là, pour le coup, vous pouvez toujours chercher dans n'importe quel média des informations sur cette affaire du 8 décembre. Vous n'en trouverez pas. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas depuis un an. C'était l'affaire du 8 décembre. C'est l'affaire du 8 décembre 2020. Donc c'est une affaire qui date, ça fait plus d'un an maintenant. On rappelle rapidement, le 8 décembre 2020, la DGSI interpellait dans plusieurs régions 9 personnes de la mouvance d'ultra-gauche pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. 7 d'entre elles sont mises en examen. Elles font 5 parmi ces 7 vont faire de la prison préventive. Tout au cours de l'année 2021, 4 sont sorties. Et il reste toujours, donc depuis le 8 décembre 2020, une personne incarcérée au titre de la prison préventive sous le régime de l'isolement. Alors même que, alors évidemment, rien ne justifie dans son comportement, c'est normalement pour ça qu'on met les gens à l'isolement, rien ne justifie dans son comportement le fait d'être mis à l'isolement, mais comme c'est une procédure terroriste, procédure d'exception, aucun fait ne leur sont reprochés. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui maintenir quelqu'un en prison... sans aucun fait. L'antiterrorisme, c'est pas le seul cas où on maintient des personnes enfermées sans qu'on ait rien à leur reprocher. C'est comme ça qu'on remplit les CRA, les centres de rétention administratifs aussi. Pour revenir sur l'affaire du 8 décembre, donc là, l'instruction est en cours. Donc, et dans cette instruction, il y avait un moment... important pour la défense, ça s'appelle les nullités. Alors moi, j'y connais rien en droit, donc là, je vais m'appuyer sur l'article de Expansive Info qui a été publié hier et qui est extrêmement clair sur ce qui est en train de se passer et les enjeux. Donc je lis. Une nullité pourrait vulgairement se définir comme une erreur de procédure, une irrégularité ou illégalité dans les actes d'enquête menés dans le cadre d'une affaire judiciaire. Dans le cadre de l'affaire du 8 décembre, toutes les nullités déposées touchent directement à la base de l'enquête. Il faut ici revenir sur un point très particulier de cette affaire, mais commun à la plupart des affaires pour association de malfaiteurs terroristes. En règle générale, comme on peut l'imaginer, une enquête est lancée par le parquet après le constat de la commission d'une infraction. Là, non. Pas de plainte, pas de victime, pas de crime, ni de délit à l'origine de l'enquête. Mais un rapport de 3 pages rédigé par la DGSI, hors de tout cadre judiciaire et de tout moyen de contrôle par la défense quant à sa véracité et sa légalité, rempli de présomptions et de conditionnels, qui réussit le tour de force de se construire sur des éléments ayant nécessité l'utilisation de ce que les services de renseignement peuvent utiliser comme techniques de surveillance les plus intrusives. Écoute de conversations privées, dans le cadre de relations intimes par exemple. Tout en étant particulièrement flou sur l'effet qui établirait la menace, entre guillemets, constituée par le « groupe », entre guillemets, surveillé. Une histoire en fait, une histoire inventée par le renseignement pour discréditer des militants... internationaliste. Du coup, ça c'était présenté à délibérer le 26 janvier. De manière surprenante, ou pas, toutes ces nullités ont été rejetées. Alors que, en fait, ils vont expliquer dans Expansive Info que par exemple, dans les procès-verbaux, je ne sais même pas si on peut appeler ça un procès-verbal.
Non, je crois que c'est enfin c'est pas un PV, c'est mais
des notes, quoi.
C'est dans les indications de procédure, quoi, enfin sur les dates d'enregistrement, ce genre de choses, quoi.
Si c'est enregistré par un juge, je crois que c'est un PV justement.
Mais alors
c'est dans la procédure d'inculpation.
Non, c'est la procédure d'enquête apparemment pour où doit être notifié la date où sont faits des enregistrements, enfin bref.
Mais oui, apparemment ça donne un procès verbal qui doit exister quand même.
Bref, enfin ouais. C'est en fait donc on va dans cette affaire, on aura utilisé comme ils le disent tous les moyens intrusifs pour donc des écoutes téléphoniques, des poses de micro sur les bagnoles, enfin ce genre de trucs. Donc surveiller, localiser, essayer d'extraire des, comme il n'y a pas de fait, il faut essayer de trouver des trucs, donc des mots qui auraient été prononcés. Or, donc ça respecte évidemment pas les règles, les textes de la CNIL. Enfin ça, voilà, c'est ça respecte pas le droit non plus. Et en fait, dans ce qui est rendu, il n'y a pas, par exemple, la date de la pose des micros. Il n'y a pas... En fait, toutes les informations qui permettraient à la défense de pouvoir contre-attaquer, quoi, on ne les a pas. Et donc, dans l'article d'Expansive, il y a deux pistes possibles, deux hypothèses possibles sur ces manquements dans la procédure. Soit les policiers de la DGSI sont incompétents et ne savent pas appliquer la loi au nom de laquelle ils agissent, hypothèse 1. Soit les policiers de la DGSI truandent et s'arrangent bien comme ils veulent avec la loi, au nom de laquelle ils agissent, en couvrant leurs pratiques illégales par des omissions opportunes. Dans les deux cas, il semble qu'on trouve dans le dossier plus d'infractions relevant du code de procédure pénale que du code pénal lui-même. Alors, c'est un premier rendu, hein, donc ça a été balayé, toutes ont été balayées. On avait fait avec Piquet, début décembre, une émission avec des inculpés et avec des comités de soutien, où ça avait été abordé, et où en fait, une personne nous expliquait qu'il y avait évidemment un enjeu sur ces nullités pour l'affaire du 8 décembre, mais plus globalement pour toutes les affaires d'antiterrorisme. Puisque là, c'est les méthodes qui servent à enquêter qui sont questionnées, quoi. C'est donc évidemment pas surprenant qu'on entérine ces pratiques-là, sinon ça voudrait dire remettre complètement en cause les méthodes de la DGSI. C'est pas terminé pour cette procédure de nullité, puisqu'ils peuvent se pourvoir en cassation, ce qu'ils vont faire. Et pour faire ça, ils vont avoir besoin de soutien, et notamment de soutien financier, parce que ça coûte une blinde, hein, le pourvoi en cassation, donc on vous renverra vers la cagnotte. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas du tout fini, hein, l'instruction étant toujours en cours. Voilà, nous on continuera à vous donner des nouvelles. Tu voulais ajouter quelque chose sur...
Non, pas spécialement, mais pour donner une idée, par exemple, bon, la nullité, c'est pour éventuellement contester la légalité des procédures qui ont été faites, etc. Mais dans une des rares affaires qui a permis d'innocenter... juridiquement des inculpés, l'affaire de Tarnac, c'est le fait de disposer aussi des éléments de la procédure, donc des dates, des moyens employés, etc., qui a permis à la défense de démontrer qu'il y avait des preuves qui avaient été tout bonnement fabriquées. Du coup, l'impossibilité de faire respecter les règles que doivent prendre une procédure et d'avoir les éléments s'ils sont couverts par des clauses de secret défense, etc., c'est aussi retirer à la défense la possibilité de prouver éventuellement qu'il y a des preuves qui sont tout bonnement fabriquées, quoi. Là, on est face à une affaire où l'affaire est déjà entièrement montée sur des suspicions, des imputations, etc. Si en plus il y a impossibilité de démontrer la fausseté de preuves ou de choses à charge, c'est tout bonnement retiré à la défense la possibilité de contester ce qui lui est reproché, quoi.
On peut souligner au passage qu'il y a le comité de soutien de Rennes, du coup, qui va se lancer dans un grand travail d'investigation au long cours pour essayer de mettre en lumière tout ce qui se passe autour de cette affaire, tout ce qui n'est pas bien. Et ce travail sera publié au fur et à mesure sur le blog soutien812.blackblogs.org et sûrement relayé sur différents sites d'information. Donc on vous invite à suivre ça si vous voulez en savoir plus. Puisque ce ne sera pas dans les médias mainstream que vous pourrez suivre l'affaire.
Et on rappelle, comme depuis le 8 décembre 2020, qu'on fait partie, enfin, on est absolument solidaire des gens qui sont incriminés, qu'on demande l'arrêt immédiat de l'acharnement judiciaire et le fait qu'on libère Libre Flo, qui est emprisonné sous le régime absolument insupportable de l'isolement depuis plus d'un an. On essaiera, comme on l'a fait depuis un an, d'avoir des nouvelles directement avec les camarades inculpés. Et voilà, et on les embrasse.
Ben, maintenant, on va nous dissoudre, on est mal barré.
Et ben, de toute façon, on continuera à relayer les infos là-dessus. On enchaîne, je vous propose. C'est Asgard, tu voulais causer de Ponta Nezen, je ne sais pas exactement, mais tu vas nous dire.
Moi, je voulais causer, mais je voulais surtout faire un appel à témoignages, puisqu'il y a, depuis presque 15 jours maintenant, enfin au moins plus d'une semaine, localement, un événement qui, sans pour autant donner lieu à un travail de journalisme, suscite beaucoup d'articles dans la presse locale et éventuellement déborde sur les réseaux à tendance d'extrême droite et dans les médias, dans des médias plus nationaux, mais d'extrême droite aussi, puisqu'il y a eu des reportages à CNews qui ont été faits sur la question et qui prennent tous pour origine ce qu'ils ont appelé des faits de guérilla urbaine qui auraient eu lieu à Ponta Nezen. Alors dans les faits, il s'agit d'une rame de tram qui a été l'objet de tirs de, alors pour rentrer dans la sémantique guerrière, de mortiers, donc des fusées d'artifice. Et d'une voiture aussi de Bibus qui, à la suite de ça, aurait pris feu, quoi. Donc, cet événement donne lieu à énormément de déclarations de tous les partis, de droite, donc La République En Marche, le Front National, et puis la droite, pour dénoncer une recrudescence de violence, des quartiers de non-droit, enfin bref, toute cette sémantique-là qui est reprise à n'en plus finir. Et donc les événements ont donné lieu aussi à l'arrêt de la desserte du quartier de Ponta Nezen par le réseau Bibus jusqu'au 31.
Aujourd'hui.
Donc jusqu'aujourd'hui, ça devrait partir. Et alors, donc on parle de quartiers en guerre, là, c'est la sémantique qui est donnée, et tout ça remonterait donc au 19 et à une opération que les forces de l'ordre ont appelée une opération de sécurisation qui aurait dégénéré, quoi. Donc l'origine en fait de ces mouvements à Ponta Nezen et aussi dans d'autres quartiers, puisqu'il y a eu des tirs de fusée à Kérourian ou à Bellevue. Et, ce serait donc une descente des flics pour faire des contrôles et soi-disant rechercher des stupéfiants. Et donc le 19, il y a 8 personnes qui ont été accusés de faits excessivement graves, séquestration, délit de fuite, enfin bref, la liste est longue.
Oui, parce qu'il faut savoir que quand les flics sont intervenus, bah, ils sont partis en courant et il y en a qui ont eu la mauvaise idée au passage de rentrer dans le premier appartement dans lequel ils pouvaient se planquer et où il y avait des gens dedans, et d'où l'effet de séquestration, soit dit.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est très peu clair, quoi. Enfin, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, le procureur a retenu ça à charge contre 5 personnes. Donc, qui vont traîner en justice, et dont 3 ont été immédiatement placés en détention préventive, puisqu'ils sont considérés dangereux, puisqu'ils ont un casier judiciaire. Et du coup, avant même de pouvoir préparer leur défense, ils se prennent de la préventive jusqu'au procès qui sera le 25, quoi.
Le 25 février ?
Le 25 février, ouais.
Ok. Moi, je ne serais pas étonné que d'ici le début des élections, il y ait plein d'affaires de merde qui sortent comme ça dans les médias. Quoi, au sens, les médias dominants sont quand même souvent la botte du gouvernement, ils n'ont aucun esprit critique. Ils vont faire mousser quoi, des histoires toutes pourries comme ça. Quoi, ça s'est déjà passé, en fait.
Oui, puis ça va dans le cadre de la sécurisation à tout va, on enchérit, on surenchérit sur les questions sécuritaires.
Quoi, ouais, quoi, voilà. Et ben, en tout cas, là, on peut voir que ça a donné lieu à des belles déclarations, notamment du préfet, et les articles le pointent comme ça, hein, qui propose donc, pour répondre à ça... des effectifs de police renforcés sur Pont-à-Nézène, la mise en place de vidéosurveillance, comme s'il s'agissait de mesures d'urgence qui étaient censées répondre à une procédure de crise. Mais on peut voir que ces mesures-là avaient déjà été annoncées, et c'est visible sur le site de la mairie de Brest, hein, par exemple, puisqu'il s'agit d'un accord qui date de fin novembre, où ces mesures-là sont déjà annoncées. Donc il y a des effectifs de police supplémentaires, la vidéosurveillance et la création d'une BAC de jour. Quoi. Bon, une BAC de jour dont les procédures ressemblent étrangement aux opérations de sécurisation qui font dégénérer la situation, là, puisque... On va avoir lieu de nouveau à du flagrant délit, ouais. Du contrôle d'identité et ce type d'opération qui sécurise et font dégénérer. Donc voilà, ces mesures-là, elles étaient de toute façon déjà dans les tiroirs, déjà budgétisées, déjà annoncées et les événements-là les légitiment hein, pour une part. Ouais. Et tout ça, ça se fait en effet, comme tu disais Nico, dans un climat où la dernière thématique électorale là, qui a été annoncée pour concurrencer la droite et les macronismes, ça va être celle de la sécurité, avec déjà des mesures qui ont été annoncées, hein, qui avaient été annoncées déjà depuis la fin du Beauvau de la sécurité, qui sont le renforcement national et le doublement des effectifs de police, et qui ont donné lieu à Nice, c'était la semaine dernière, je crois, à la reformulation de ce qui va être mis en place, qui doit être, me semble-t-il, finalisé par Darmanin, là, au début du mois qui vient, et qui vont être clairement annoncés dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, c'est ça ? Ouais. On a déjà pas mal d'éléments hein, sur la manière dont on va réorganiser les forces de l'ordre. Du coup, il va y avoir une force d'intervention spéciale pour les banlieues qui va être mise en place, qui va dans ce schéma-là. Des effectifs de gendarmerie qui vont être augmentés en zone rurale. Donc ça, je pense que c'est à part... éventuellement pour s'occuper de ce qui pourrait relever des activités de type gilets jaunes ou ce genre de choses, hein, pour accompagner les mouvements sur les banlieues. Et du coup, je pense que ces mesures-là sont particulièrement à surveiller, et si jamais il y a des gens qui voudraient témoigner sur la manière dont les choses peuvent s'organiser à Pont-à-Nézène, et ben on les appelle à venir. Quoi.
Merci beaucoup, Asgard. On enchaîne, on va partir en Syrie avec Seb.
Ou pas avec moi, avec tout le monde. Ouais, c'est une. Bah, pour moi, c'était une info qui rebondit bah, quand on voit les attaques donc, sur les médias de gauche en France, l'acharnement sur les inculpés du 8 décembre. Je ne sais pas si on peut le préciser, mais dans les inculpés, ce qui fait qu'il y a une personne qui est toujours à l'isolement, ou enfin qu'il y a eu cet acharnement contre eux, c'est parce qu'il y en avait un qui revenait du Rojava. Rojava, il s'y passe quoi ? Bah, y a des gens, principalement kurdes, qui essaient de défendre un lieu autonome. Et des combattants, du coup, qui existent là-bas et qui ont beaucoup et qui combattent encore contre l'État islamique, contre Daesh, contre des vrais terroristes, si je puis dire. Donc, d'un côté, en France, on s'acharne sur les gens qui y sont allés. Et à côté de ça, là, depuis une semaine, on peut lire, vous avez peut-être entendu parler, que les combattants de Daesh ont attaqué une prison qui est au nord-est de la Syrie. Une prison défendue par les Kurdes, par des forces kurdes. Parmi lesquels, alors c'est là qu'on va devoir peut-être m'aider un peu, c'est le FDS, c'est ça ? Qui est constitué de plusieurs entités. Hein. Le FDS, c'est les forces démocratiques syriennes, mais dominées par les Kurdes. Alors, dans ces forces-là, démocratiques syriennes, il y a aussi d'autres. Il y a des gens plutôt proches, je crois, de l'armée démocratique de Syrie, l'armée de libération, là, contre Bachar.
C'est l'opposition au régime de Bachar.
Voilà. Ouais. Et donc, les forces kurdes qui sont dominantes au sein du FDS, ce sont particulièrement les YPG et les YPJ.
Les YPG.
Les YPG. Mais, excusez-moi.
C'est les combattants kurdes.
Donc soutenus par les forces occidentales hein, dans le combat contre Daesh là-bas. Donc là-bas, on les soutient, mais. Quand ils reviennent sur le territoire, là, par contre, on s'acharne contre eux parce qu'on a peur qu'ils portent ce message d'autonomie sur notre territoire, quoi. Mais donc l'info, c'est que il y a eu cette attaque de Daesh sur une prison. Ils voulaient aller libérer leurs camarades, si on peut dire, qui a quand même fait déjà 373 morts. Bon, plus du côté Daesh que du côté des FDS, mais on a quand même au passage 7 civils qui sont morts, 98 membres des forces kurdes pour 268 djihadistes et un paquet qui sont enfuis de la prison. Donc moi, c'est juste ça qui m'étonne quand je vois ce titre, c'est ça, c'est le fait que là, on dise, on parle des combattants kurdes. Par contre, dans l'article, jamais vous ne verrez un seul mot sur le Rojava ou quoi que ce soit. Quoi. Ça, on ne va pas faire le lien du tout. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus là-dessus. En tout cas, les Kurdes font un gros boulot contre les extrémistes islamistes au nord-est de la Syrie. Au passage, ils essayent aussi de repousser les Turcs.
Oui, j'allais te dire. Ouais. En fait, au passage, il y a les Turcs qui leur foutent sur la gueule, comme ça, c'est bien.
Voilà. Donc,
parce qu'ils sont considérés comme organisation terroriste par les Turcs.
Ouais. C'est à ce nom-là parce qu'ils sont considérés comme un groupe terroriste par les Kurdes qui peuvent être par les Turcs, pardon. Qui sont emmerdés à leur retour en France. À noter quand même, et là c'est pareil, on vous renvoie vers un podcast qu'on avait fait à Piquesse l'année dernière. C'est une interview de André Hébert, qui est un ancien combattant internationaliste du Rojava. Il a écrit un livre qui s'appelle Jusqu'à Raqqa, et il fait partie des gens qui ont écrit et coordonné un livre publié aux éditions Libertalia qui s'appelle Hommage au Rojava. Et où il explique, justement, lui, avoir été emmerdé par la DGSI. Euh, il, Il explique au passage donc la différence entre le, je sais pas le dire, il y a YPG, donc le YPG c'est les forces, enfin l'union des forces des combattants kurdes, ce sont les hommes, et le YPJ, c'est les mêmes bataillons, mais ce sont des bataillons de femmes. Ouais. Bref, donc il explique dans ses livres et dans l'interview qu'il nous avait accordé comment ça s'organise là-bas le combat, quels sont les enjeux pour le Rojava, et surtout comment ça se passe au retour, et qui sont les combattants internationalistes emmerdés en Europe quand ils rentrent. Parce que dans ce qu'il nous racontait, il disait que dans les combattants internationalistes français, qui sont une centaine à peu près, il y a à la fois des militants anarchistes ou internationalistes, mais il y a aussi d'anciens militaires qui se retrouvent là-bas pour combattre le terrorisme islamiste. Et tout le monde n'est pas emmerdé de la même manière au retour. En tout cas en France. C'est les manières de traiter les personnes qui rentrent du Rojava sont différentes en France, en Allemagne, en Italie, ça aussi il nous l'expliquait. Ce qui est sûr, en tout cas, pour refaire le lien avec, le camarade emprisonné de l'affaire du 8 décembre, c'est que c'est bien ça, sa participation aux brigades internationalistes au Rojava, qui déclenche tout le reste, quoi. C'est bien à ce titre-là qu'on le garde enfermé en prison en tant que potentiel terroriste, alors qu'il aura risqué sa vie pour lutter contre Daesh là où c'est nécessaire.
Ouais. Voilà. Bon.
Eh ben, de toute façon, on reviendra là-dessus aussi. Voilà.
À suivre de près.
Ouais. À suivre de près. Nous allons faire une pause musicale avant de revenir pour la seconde partie, s'informer autrement.
Alors, ouais. Juste un... Tu voulais dire ?
Non, si
je tenais à embrasser chaleureusement Rama. tu vois, mon chat, quand tu demandes une musique sur Radio Picasso, la playlist est participative et ta musique sera diffusée. Par ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de tous nos auditeurs. Donc on va écouter Michael Jackson, Smooth Criminal, et après on se rattrape en écoutant Babes in Toyland.
À tout de suite.
Yeah. Wow. 2, 3, 4. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days.